Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui à la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne en compagnie d'Alain Jorissen. Alain Jorissen, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes astrophysicien, professeur d'astrophysique à l'Université libre de Bruxelles et vous avez participé à l'élaboration du troisième catalogue des données du satellite Gaïa qui a été diffusé par l'ESA en juin 2022. Alors une mission lancée il y a maintenant 10 ans par l'Agence spatiale européenne et qui ne cesse de scruter la voûte céleste depuis. Alors Gaïa est entièrement dédiée à ce qu'on appelle l'astrométrie, une branche de l'astronomie qui tente d'évaluer la position, la distance et le mouvement des étoiles. Une discipline qui finalement a d'ailleurs longtemps été synonyme d'astronomie.
Oui, c'est retour aux sources en quelque sorte, puisque l'astronomie est née par l'observation des positions planétaires, sauf que, disons, depuis trois siècles, l'astronomie a shifté des planètes vers les étoiles et les galaxies. Et donc aujourd'hui, c'est un catalogue de 2 milliards d'étoiles que nous prépare le satellite Gaïa.
Alors cette discipline de l'astrométrie, évidemment pas nouvelle, hein, déjà depuis l'Antiquité et même avant, on s'efforce d'évaluer la position et le mouvement des étoiles. Finalement, à quand remontent les premières cartes qui préfigurent un peu la vision que l'on a de notre ciel aujourd'hui?
Oui, donc la première carte du ciel, elle remonte à l'astronome Hipparchos, environ 3 siècles avant Jésus-Christ. L'astronome Hipparque, environ 3 siècles avant Jésus-Christ. Et si j'ai fait le lapsus, c'est que l'Agence spatiale européenne a, en l'honneur de Hipparque, lancé en 1989, le prédécesseur de Gaïa, Hipparchos. Et Hipparchos a réalisé une cartographie de 118 000 étoiles dans le ciel. Alors, à titre de comparaison, il faut savoir qu'à l'œil nu, on peut voir 4500 étoiles dans le ciel à n'importe quel moment. 9000 au total, mais c'est pour les deux hémisphères, donc la moitié sont sous nos pieds, cachés par la Terre, donc 4500 étoiles visibles simultanément à l'œil nu. Notre galaxie, la Voie lactée, en contient 200 milliards environ. Donc, mais malgré cela, les 118 000 étoiles observées par le catalogue, par le satellite Hipparchos, étaient déjà considérées à l'époque comme une prouesse, parce que non seulement les positions sur le ciel étaient mesurées avec grande précision par le satellite Hipparchos, mais également les distances. Et les distances, donc la troisième dimension, la dimension de profondeur, c'est quelque chose que l'astronomie avait beaucoup de mal à déterminer. Parce qu'en fait, la première détermination remonte à Bessel, dans les années 1830. C'est ce qu'on appelle la mesure de la parallaxe des étoiles. Et jusqu'avant Hipparchos, les mesures de parallaxe depuis le sol étaient extrêmement difficiles à réaliser parce que l'angle de parallaxe est extrêmement petit. Alors c'est quoi l'angle de parallaxe? C'est le décalage de la position d'une étoile sur le ciel causé par le déplacement de la Terre autour du Soleil. Donc à 6 mois d'intervalle, on s'est décalé de 300 millions de kilomètres dans l'espace, et pour les étoiles les plus proches, ça correspond à un changement de direction apparent. Si on utilise comme référentiel, comme point de repère, les galaxies les plus lointaines, considérées comme fixes, les étoiles proches se déplacent par rapport au fond du ciel lointain, parce que nous-mêmes, nous déplaçons notre point de vue.
Et cette question de profondeur, hein, des distances entre les corps célestes, c'était justement ignoré, hein, dans ces premières cartes célestes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce si important d'en avoir une observation précise ?
Bah, disons parce que ça, sans la distance, sans la profondeur, on n'a qu'une vision incomplète de la galaxie et de l'étendue de l'univers. Il faut savoir que au fil des années et des siècles, notre appréhension de la taille de l'univers a énormément évolué, puisque à la Renaissance, l'univers se limitait, enfin jusqu'à la Renaissance plutôt, l'univers se limitait au système solaire, lui-même encerclé par ce que les anciens appelaient la sphère des fixes, qui étaient en fait les étoiles supposées accrochées à une sphère de cristal tournant autour de la Terre et située un peu au-delà de la dernière planète connue à l'époque. Donc ça, c'était l'univers, avant la possibilité que nous avons aujourd'hui d'étalonner les distances. Et puis après, pour ne citer qu'une étape dans ce cheminement vers la connaissance de la profondeur du ciel, c'est par exemple les mesures de l'astronome Edwin Hubble dans la décennie 1920, qui a réalisé que ce qu'on appelait jusque-là la nébuleuse d'Andromède, donc qui était supposée se situer dans la Voie lactée, donc dans l'univers des étoiles de l'époque, en fait, Hubble réalise que la nébuleuse d'Andromède, ce qui était appelé jusque-là la nébuleuse d'Andromède, doit être rebaptisée la galaxie d'Andromède, de sorte que l'univers d'un ensemble d'étoiles que l'on imaginait jusque-là est reconsidéré comme un ensemble de galaxies. À l'époque, on appelait une galaxie un univers-île, parce que jusque-là, notre univers était limité à notre Voie lactée. Et tout à coup, la dimension de l'univers explose, entre guillemets, dans la conception des astronomes, et devient une vaste collection de galaxies, chacune séparée par une grande épaisseur de vide. Et pour citer les ordres de grandeur, notre galaxie, la Voie lactée, il faut à la lumière 100 000 ans pour passer d'une extrémité à l'autre. Donc on dit que le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Et tandis que la distance à la galaxie d'Andromède, c'est plus de 2 millions, c'est entre 2 millions et 3 millions d'années-lumière. Et si on termine, disons, cette description simplifiée de l'univers, ben disons qu'au-delà de la galaxie d'Andromède, on a des dizaines de milliards de galaxies qui s'étendent jusqu'à l'horizon de l'univers observable, 13,5 milliards d'années-lumière.
Alors vous l'avez mentionné, hein, l'appréhension de la taille de l'univers a fort évolué au cours des siècles. Cette meilleure appréhension aussi qu'on a des distances des astres, hein, permet d'être mieux informé, hein, sur leur taille, mais aussi leur luminosité intrinsèque, hein, c'est-à-dire indépendamment de la distance à laquelle ils se situent. Alors Alain Jorissen, vous avez donc travaillé avec votre équipe, hein, sur l'élaboration du troisième catalogue du satellite Gaïa. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, hein, nous parler déjà de ce satellite, de ce qu'il permet d'étudier? Il mesure non seulement la position de ces objets célestes, mais aussi l'éclat ou encore le spectre.
Absolument, absolument. C'est ça qui fait sa puissance également. Oui, effectivement. Il y aurait énormément de choses à dire sur la question, mais je dirais ceci pour commencer. C'est que par le fait que le satellite mesure les trois coordonnées d'espace, donc les deux coordonnées de position sur le ciel plus la troisième coordonnée qui est la profondeur de l'objet, donc ça donne au total trois nombres, et ces trois nombres correspondent à la position du ciel dans un repère habituel mathématique. Donc on a les trois coordonnées d'espace, mais on a aussi les trois coordonnées de vitesse. Et ça, c'est ce que les physiciens appellent l'espace des phases, donc trois données sur la position, trois données sur la vitesse, et ça permet en fait d'analyser la galaxie comme un gaz d'étoiles. Et ça permet d'étudier la galaxie comme un système dynamique, et en particulier ça nous ouvre la porte vers l'histoire de notre galaxie. Par exemple, on a si on fait un diagramme qui montre les agrégats dans cet espace des phases, on constate effectivement qu'il y a des paquets d'étoiles qui partagent les mêmes propriétés d'espace et de vitesse, et que l'on attribue aujourd'hui à des galaxies naines qui ont été accrétées par notre Voie lactée. Et donc ça nous ouvre la porte à la connaissance de l'histoire de notre galaxie et de son environnement proche, et de constater que c'est un environnement dynamique, puisque les choses évoluent au fil des centaines de millions d'années. Donc on a aujourd'hui des traces de galaxies naines qui ont été absorbées par notre propre galaxie. Pour fixer les idées, je pense que certains auditeurs auront déjà entendu parler des nuages de Magellan, qui sont deux petites galaxies satellites de notre Voie lactée, situées à grosso modo 180 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Eh bien, ces galaxies qui ont aujourd'hui leur identité propre vont, dans un futur plus ou moins lointain, être à leur tour absorbées par notre propre galaxie. Donc ça, c'est un exemple de ce que nous permet d'étudier les 6 coordonnées fournies par Gaïa. Et bien sûr, avec la connaissance du spectre de l'étoile, c'est-à-dire de sa lumière décomposée en arc-en-ciel, ça nous ouvre la porte vers énormément de quantités physiques propres à l'étoile. Et donc, ces quantités qui sont connues pour 2 milliards d'étoiles, ça va nous donner du travail pour des dizaines d'années, évidemment.
Alors, vous l'avez mentionné, Alain Jorissen, ce satellite, finalement, tel un phare, il scrute l'ensemble de la voûte céleste. Il observe donc bien évidemment des étoiles, mais pas que. Hein. Quels sont les différents objets observés par Gaïa ?
Alors, on va balayer l'univers depuis les objets les plus proches, à savoir les astéroïdes de notre système solaire, jusqu'aux objets les plus lointains, à savoir les quasars, qui sont des galaxies actives situées aux confins de l'univers observable. Donc on balaye le spectre complet des sous-disciplines de l'astronomie. Et pour citer l'exemple, pour être plus précis quant à l'intérêt d'observer les astéroïdes de notre système solaire, il faut savoir qu'on est de plus en plus conscient aujourd'hui du fait que partout à Tis, le ciel risque de nous tomber sur la tête sous la forme d'un astéroïde qu'on appelle tueur, hein, qui est possiblement sur une trajectoire de collision. On sait que ça s'est passé à plusieurs reprises dans le passé de la Terre, puisqu'en moyenne, tous les 50 millions d'années, la Terre entre en collision avec un astéroïde de ce type. Et un exemple, c'est ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Hein, c'est la collision qu'on a aujourd'hui repérée, dont on a aujourd'hui repéré la cicatrice sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Et on est quasiment certain que cet événement est la cicatrice du cataclysme qui a causé la disparition des dinosaures. Et ça se produit en moyenne tous les 50 millions d'années dans l'histoire de la Terre. Et donc, la communauté astronomique scrute le ciel pour détecter ces astéroïdes tueurs avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire en espérant pouvoir alors les dévier pour éviter la collision. Le problème, c'est que nous avons une zone aveugle, et cette zone aveugle correspond aux astéroïdes qui sont à l'intérieur de l'orbite terrestre. Parce que ces astéroïdes-là sont dans le ciel, sont visibles dans le ciel en plein jour. Et donc, depuis la Terre, il est impossible de les repérer. Et c'est là que Gaïa peut nous offrir un avantage incontestable, parce que de l'endroit où se trouve Gaïa, c'est-à-dire à 2 millions de kilomètres de la Terre, à l'opposé du Soleil, en fait, Gaïa a la possibilité de découvrir les astéroïdes situés à l'intérieur de l'orbite de la Terre et qui sont possiblement dangereux. Donc voilà un exemple très pratique de ce que peut nous offrir et offrir à l'humanité dans son ensemble la mission Gaïa.
Alors vous nous l'avez dit aussi, hein, cette mission Gaïa nous aide à comprendre la structure et l'histoire de notre galaxie. Peut-être quelles sont les autres grandes questions auxquelles les astrophysiciens espèrent répondre, hein, grâce aux données récoltées par Gaïa ?
Vaste programme. Donc, dans le contexte de la galaxie, on peut mentionner Donc, j'ai déjà mentionné l'histoire de la galaxie et de l'accrétion des galaxies naines de notre environnement, mais on peut aussi mentionner la recherche de la matière noire, même si aujourd'hui on a un autre satellite de l'Agence spatiale européenne, Euclide, dont c'est la mission dédiée, la recherche de la matière noire, mais Gaïa peut également contribuer à cela. Il peut aussi rechercher, alors là on change complètement d'échelle, on va aux plus grandes distances. Il a découvert des mirages gravitationnels, donc c'est nos collègues de l'Université de Liège en particulier qui sont impliqués dans ce volet-là de l'analyse des données Gaïa. Donc eux ont publié leurs résultats il y a quelques semaines en fait. Et donc, ils ont trouvé des lentilles gravitationnelles. Donc, ce sont des quasars dont on observe des images multiples grâce à l'effet de relativité générale qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Et ça, ça nous permet aussi d'étudier en fait la présence de matière noire, mais aux très grandes distances, donc à l'échelle des amas de galaxies. Voilà deux exemples, hein. il y en aurait beaucoup d'autres. Et en fait, ce que je dis souvent dans ce contexte, c'est qu'on peut imaginer que dans les 10-20 ans à venir, en fait, on doive réécrire tous les manuels d'astronomie grâce aux informations qu'on va recueillir par le satellite Gaïa.
Nous sommes de retour avec Alain Jorinsen, astrophysicien à l'Université libre de Bruxelles. Alors, on le mentionnait un peu plus tôt, vous avez donc contribué à l'élaboration de cette deuxième partie du troisième catalogue des données de Gaïa, qui a donc été publié en juin 2022. Peut-être qu'est-ce qu'il en ressort déjà ? Est-ce qu'on a pu observer des surprises, des résultats inattendus ?
Oh ben, disons un exemple personnel que je peux mentionner, donc c'est celui-ci. En juin 2022, on a publié un catalogue d'étoiles binaires. Donc, ce sont des étoiles qui existent par paires, qui vivent par paires dans la galaxie. Et on a publié les propriétés des orbites de ces systèmes. Et de nouveau, on a changé l'ordre de grandeur de la connaissance des systèmes binaires, puisque jusque-là, aussi dans notre groupe à l'Université de Bruxelles, on était responsable du maintien du catalogue d'orbites d'étoiles binaires et on avait 4000 systèmes dans ce catalogue. Depuis juin 2022, on en est à 100 000. Donc on a là aussi changé d'ordre de grandeur. Donc on a maintenant une moisson gigantesque de systèmes binaires à notre disposition, dont on connaît les propriétés orbitales. Et le grand sport, entre guillemets, actuel, c'est d'aller chercher dans cette moisson énorme, donc on a non seulement des binaires spectroscopiques, mais on a des binaires d'autres types, et au final on a plusieurs centaines de milliers de systèmes. Et le sport, entre guillemets, consiste à chercher des compagnons compacts et obscurs, c'est-à-dire des étoiles à neutrons et des trous noirs, qui sont dormants, c'est-à-dire qui n'accrètent pas de matière et donc qui ne sont pas des sources de rayons X, et dont on ne peut détecter la présence que par l'effet gravitationnel sur le compagnon visible. Et donc on a trouvé dans le catalogue Gaïa jusqu'à présent deux trous noirs dormants de ce type, et on a trouvé plusieurs étoiles à neutrons. Et en particulier, en ce qui nous concerne, on a été impliqué dans l'analyse de ces étoiles à neutrons autour d'étoiles visibles. Donc voilà, ça c'est un... Et je peux continuer en fait l'histoire, parce que ces étoiles à neutrons, l'existence des étoiles à neutrons a été confirmée par l'existence d'une cavité dans le milieu interstellaire, cavité qui était causée par l'explosion qui a donné naissance à l'étoile à neutrons. Donc une explosion de supernova éjecte l'enveloppe de l'étoile qui explose à grande vitesse dans le milieu interstellaire, et donc c'est comme un souffle qui va nettoyer l'environnement et qui va creuser dans le milieu interstellaire une cavité. Et aujourd'hui, on retrouve ces systèmes binaires accompagnés par une étoile à neutrons au milieu de cavités du milieu interstellaire. Et ça, c'est une surprise. On ne s'attendait pas du tout à ce que le catalogue Gaïa conduise à ce genre de découverte, hein. Donc c'est souvent... quand on explore un nouveau domaine de la science et de la connaissance, il y a des choses qu'on ne pouvait pas nécessairement imaginer qui deviendraient possibles. Et ça, c'est un exemple de découverte inopinée et inattendue.
Alors, vous l'avez déjà brièvement évoqué, mais les données que fournit Gaïa sont colossales. Alors, elle effectue 500 millions de mesures par jour. Je crois que pour le troisième catalogue, on parle de 1,8 milliard d'objets célestes qui sont recensés. Finalement, comment est-ce que la communauté scientifique peut étudier ces données? Comment est-ce qu'elles sont mises à disposition concrètement? Comment est-ce qu'elle les exploite?
Ben, disons que ça pose effectivement des problèmes très pratiques de stockage des données et d'accès aux données. Donc on a utilisé les ressources de l'Agence spatiale européenne. Donc il faut savoir qu'à l'issue de la mission, donc en 2030, donc on a parlé du troisième catalogue, mais on est aujourd'hui occupé à travailler au quatrième, et puis il y aura un cinquième vers 2030, par là, un cinquième catalogue. Ben, à l'issue de cette mission, on aura, je pense, 15 pétabytes de données, donc ça correspond à 15 000 disques d'un terabyte, hein, donc il faut déjà pratiquement trouver une pièce pour les stocker et refroidir tout cela. Donc ça, c'est le boulot de l'Agence spatiale européenne. Et aujourd'hui, donc, le troisième catalogue est disponible à quelques clics de clavier, quoi, parce qu'il y a le site de l'Agence spatiale européenne qui a mis à disposition du public toutes ces données sur le site de l'Agence spatiale européenne. Donc il suffit de chercher sur Google Gaïa Archive, et le public est en mesure d'interroger en fait la banque de données de Gaïa. Évidemment, ça suppose une certaine compétence, mais c'est accessible à tout le monde. Alors on a évidemment aussi si on veut faire des recherches plus détaillées, on a besoin de connaître la syntaxe de logiciels de base de données. pour faire une recherche plus approfondie en croisant des critères et en recherchant des objets spécifiques. Mais donc c'est disponible sur Internet à tous, c'est disponible à tous puisque l'Agence spatiale européenne est une institution publique financé par l'argent public. Donc tout cela est open source.
Donc c'est pas seulement une cartographie, mais il y a aussi des éléments concernant la température de surface, hein, rayon, ou la luminosité, ou encore... Oui. Une dernière question, si vous le voulez bien. Finalement, si on se ramène à l'échelle, par exemple, de la géographie du système solaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on en connaît l'entièreté? Finalement, quelle est notre connaissance, hein, jusqu'ici, même de notre environnement très proche?
Eh bien, il y a encore des choses à découvrir et je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure à propos des astéroïdes tueurs. En fait, on connaît relativement mal ces objets. Leur recensement n'est pas complet puisque il n'y a pas si longtemps... l'une des dernières comètes, bon, le nom ne me revient plus, mais qui est passée relativement proche de la Terre, on l'a découvert deux mois avant qu'elle ne passe à proximité de la Terre. Et c'est la même chose pour un certain nombre de petits cailloux, moins spectaculaires qu'une comète, mais on les découvre quelques mois avant qu'ils ne passent à proximité. Et donc il reste tout un champ à découvrir. À ce niveau-là, pareil pour la ceinture de Kuiper, la ceinture des objets transneptuniens, que Gaïa permettra également de cartographier, enfin d'établir un catalogue plus complet des petits corps qui sont situés à la distance de Pluton par rapport au Soleil. Pluton, hein, on sait aujourd'hui que Pluton est un corps parmi des dizaines de milliers d'autres. De la ceinture des transneptuniens. Et donc là aussi, il y a énormément de choses encore à recenser.
Alain Jorissen, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Mais avec plaisir.
Alors je rappelle, vous êtes professeur d'astrophysique à l'Université libre de Bruxelles. Vous pourrez retrouver ce podcast sur eradio.be, eradio.fr. Encore merci.